Troisième et dernier épisode de notre conversation avec l'ami Gendron du groupe MEH. Au menu, résilience et impartition. Bon appétit!
Daniel, tout le volet impartition, ça doit changer la donne aussi, la façon de travailler, tant pour vous autres que pour des clients?
Sincèrement, dans notre domaine à Montréal, c'est nous qui l'avons inventé.
Mm-hmm.
On l'a fait à l'époque où les Macintosh n'existaient même pas. On s'est installé chez Cossette avec un système AlphaType. Écoute, c'était les premières, dès que les écrans étaient capables d'afficher un certain display, parce qu'avant ça, tout ce qu'on voyait, c'était du code, c'était des lignes de code.
Il ouais, fallait que tu imprimes pour voir.
C'est ça, il fallait que tu l'imprimes pour voir. Donc, ils ont sorti les premiers écrans qui appellent WYSIWYG, qui appellent What You See is What You Get.
Ouais.
Ça, c'est ça, révolutionnaire, par exemple.
Mm-hmm.
À l'époque, ils décevaient le compte de Cossette. Puis écoute, Cossette avait du volume. Je veux dire, il allait chez Cossette 4 fois par jour. Je veux dire, il allait, il faisait des allées, il faisait des retours, il faisait des allées, des retours, des corrections. Puis à cette époque-là, comme tout s'échangeait de façon analogue, à un moment donné, il s'est dit, oh, attends un peu, là. T'as-tu un bureau, là? Moi, je pourrais mettre à l'époque, on appelait ça un opérateur.
Oui.
Je pourrais mettre un opérateur, là. C'est comme bien, lui, il fera pas de nouvel job, il va faire toutes les corrections. Okay? On va sauver un temps fou, là. Fait qu'écoute, l'idée n'était pas bête. On l'a essayé. Cet employé-là a été là jusqu'à la venue des Macintosh. Et les Macintosh, je te dirais, on n'a pas été dans les early adopters pour la raison qu'on trouvait que la qualité était médiocre. À l'époque, puisque des PMH était une boîte de où on se donnait de la qualité.
Mm-hmm.
Puis quand je dis, on n'a pas été dans les early, là, des 6 mois plus tard, on a eu le cadran à son effort. Le réveil a été brutal.
Ah oui, hein?
Fait qu'il fallait un peu pédaler de reculons là, pour rattraper carrément même. On avait un bureau qui était une petite salle de réunion. On avait mis 2 Macs avec des écrans et des clients, mais souvent au comptoir. À cette époque-là, il y avait encore beaucoup d'échanges
oui.
personnels. On voulait s'assurer que les clients voient qu'on avait des Macs, mais on ne les utilisait pas. Mais ils voulaient, parce qu'on était en rattrapage. On avait du monde en formation, on était en embauche, on était. fait que ça. Fait que dans le fond, là, on a compris, on a vu rapidement avec cette nouvel équipement-là, et la mobilité de cet équipement-là qui était beaucoup plus légère, beaucoup moins imposant que les anciens systèmes. Donc, rapidement, on s'est mis à offrir à nos clients qui avaient le volume nécessaire avec la possibilité, écoute, tant qu'à venir chercher Brief, on a repris notre envol en s'installant à l'époque chez Young Ubicab. On s'est installé chez l'Académie Ogilvy. On s'est installé chez Boss. Assez rapidement, on offrait une alternative. Mais ça nous a vraiment donné des ailes. C'est pas péjoratif, mais je nous considère souvent un peu comme l'école bleue de l'industrie graphique à Montréal. On n'est pas une boîte, on n'est pas sexy, on n'est pas créatif, on n'est pas.
Non, c'est du craft.
On n'est pas des tatas non plus. Là. On est capable de faire un layout, on est capable de faire une déclinaison. On n'a pas besoin d'avoir des maquettes pour chaque pièce à réaliser. Donc, c'est pas ça notre force. Nous, notre force, c'est es-tu un gros consommateur de services graphiques? Oui. Si tu travailles avec nous, bien que notre tarif horaire va te sembler plus cher que de do it yourself, on va tellement être plus efficace que c'est là que ça va prendre tout son sens. On va évaluer les besoins dans leur ensemble. La plupart des studios, des dirigeants d'agences sont souvent capables de nous démontrer leur une plus grande rentabilité sur une base de projet en comparant si je le fais avec MEH ou si je le fais avec si je le fais moi-même. Sur l'opération, je vais être beaucoup plus efficace parce que, un, j'ai un achalandage beaucoup plus grand, donc j'ai à peu près une centaine d'employés de production à Montréal et à Toronto. Donc, au besoin, moi, je suis toujours capable de déplacer des gens, que ce soit parce qu'un de mes clients agence, chez qui on a des employés en impartition, et puis tranquille, je vais retirer du personnel, je vais les assigner ailleurs pour une période tant et aussi longtemps que l'agence n'a pas besoin de ses services. Puis je vais jouer avec mon staff comme ça. Là. Fait que c'est comme moi, tu sais, une agence qui s'engage un retoucheur, il va le payer 40 heures semaine. Puis, je veux dire, il reste à voir les capacités et le style de retouche qu'il est capable de faire. Il n'est peut-être pas capable de faire tous les genres de retouches. Chez nous, si tu travailles avec MH, tu vas avoir le meilleur retoucheur pour le temps que tu en as besoin. Si tu en as besoin pour 4h30, tu vas le payer 4h30. Tu ne payeras pas toute ta journée.
C'est
tout ça, à un moment donné, qui fait son sens. Non? Un client agence chez nous peut se retrouver dans une situation où il peut avoir 15 personnes de MH qui travaillent pour lui pendant 8 jours. Puis après ça, il retombe avec une équipe. Le client n'a jamais besoin de s'en soucier. Tout ce qu'il a à faire, c'est nous amener le travail.
Puis comment ça se passe au niveau de vos employés, à savoir si, mettons, chez les boss, c'est un infographe qui est là, puis il est pratiquement à temps plein, lui, il ne doit plus savoir pour qui il travaille en termes de sentiment d'appartenance. Comment ça fonctionne?
Mais comment ça fonctionne? Il se retrouve avec le meilleur des deux mondes. On s'assure, on a toujours une présence, il y a toujours un exécutif de MH, celui qui est responsable, comme le directeur de compte, qui, lui, n'est pas là en permanence, mais est là quotidiennement. Donc, il s'assure de la bonne relation, que le client est satisfait.
OK.
Qui s'assure de partager ça avec l'équipe. S'assurer que l'équipe est toujours à la hauteur. Par les plans de. Aussi, ça va par la formation, ça va par des événements. On s'assure de regrouper notre monde le plus souvent possible. Hein? Mais ça se fait très bien. Il n'y a pas de. Comment dire?
Il n'y a pas de frise.
D'ambiguïté à ce niveau-là. Et ce qui encourage ça, c'est la sélection du personnel qu'on envoie. MH n'est pas vraiment, on n'est pas une bonne place pour des juniors. Okay? Parce que nos clients, les attentes de nos clients sont tellement élevées qu'on embauche à peu près pas de juniors. Puis on n'engage pas non plus des wannabe art directors. Comprends? Parce qu'écoute, on travaille avec des créatifs, puis on sait comment des créatifs, c'est une très haute opinion de leur travail. On est là pour les challenger, on est là pour l'amener plus loin, on n'est pas là pour le challenger. Fait que donc, ça nécessite un casting de gens qui me ramènent à l'expression que j'ai utilisée, mais qui explique souvent tellement bien ce qu'on fait, c'est qu'on est un peu des cols bleus de l'industrie. Fait qu'à ce niveau-là, par le profil de gens, jusqu'à un certain point, on se déteint un peu dans l'agence. C'est-à-dire, on a plus de rigueur, on est moins. Peut-être un peu moins fléqué, un peu moins.
Ah oui, OK, je comprends. 2016, la gamme est-elle encore la même? C'est quoi les gros enjeux que vous vivez actuellement?
Nous, il y a toujours un gros challenge au niveau de la formation du personnel.
OK.
C'est d'amener, d'essayer, pas d'être visionnaire, d'être en avant de la parade, puis de bien qu'on veut faire bénéficier d'expertise les plus pointues possible à nos clients. Il reste que, comme depuis l'avènement du Macintosh, les métiers s'entrechevauchent.
Mmh.
Et puis ça, il faut le faire correctement. Là. Fait que là on gère un peu la mutation de l'imprimé et du numérique. Hein? Avec du personnel qui ont grandi dans un air soit numérique ou soit d'imprimé.
Ouais.
Et là, présentement, il faut un peu muter ça ensemble pour être en mesure, de plus en plus, de pouvoir bâtir des équipes chez nos clients qui sont multidisciplinaires, sans tomber dans la pointue. Hein? La majorité de nos infographistes sont capables de faire une retouche, là. Mais je veux dire, j'ai environ une dizaine de retoucheurs qui font que de la retouche chez MH, là, qui n'ouvrent jamais une design pour corriger un mot. Là, parce que nos clients sont exigeants, parce que ce qu'on vend est du haut de gamme. Dans des expertises pointues, on développe, on pousse. Dans le cas d'eux autres, on va pousser vers le 3D.
Ouais.
Le 3D va nous amener vers un peu de motion.
Mm-hmm.
Eux, on les pousse dans cette direction-là. Les infographistes qu'on appelle plus traditionnels, mais là, eux, on les pousse vers le web. Les enjeux sont là, hein, au niveau de technique. Après ça, pour MH, pour la croissance, ben, je veux dire, on se tourne, comme beaucoup d'agences à Montréal, on se tourne vers le marché de Toronto. Et nous, on est à Toronto, en impartition chez CD depuis le jour 1. quand Sylvie a ouvert son bureau à Toronto, s'est assuré que j'étais on board pour lui fournir des services de studio sur place. Donc, j'ai embauché des gens de Toronto dans l'impartition chez Sylvie. Mais là, depuis un an et demi, MEH a ouvert un bureau indépendant pour offrir la même type de service qu'on a à Montréal. Donc, on a déjà, outre Sylvie, deux autres clients en impartition. Deux agences chez qui on est en impartition. Et on dessert une clientèle d'agences et de clients directs sur une base de projet. Notre croissance venait en partie de Montréal, mais principalement à Montréal.
Parce qu'il y a de la place là-bas, personne n'a adopté votre modèle?
Le modèle suscite énormément d'intérêt. Hein? À Montréal, on est très connu dans l'industrie, donc c'est difficile d'approcher une agence qui n'a pas adopté notre concept, puis de leur vendre l'idée.
Mm.
Le marché est plus petit. Il y a un marché comme Toronto où, les mouvements de compte là, à Toronto, il y en a. Là. Il y a des gros pitch, beaucoup plus qu'à Montréal. Les comptes ne bougent pas tant que ça.
Non? Ou quand ils bougent, ils s'en vont à Toronto, surtout.
Et quand ils bougent, ils s'en vont à Toronto, parce que c'est pas pour rien. Là. Beaucoup de monde ouvre à Toronto.
Mais je regarde ça, Daniel. Ultimement, la façon dont vous travaillez aujourd'hui versus l'historique de MEH, ça demeure encore et toujours focusé sur une qualité, sur un know-how, sur un craftsmanship qui vous distingue des autres qui savent moins. Puis ultimement, c'est vraiment, c'est toujours ça qui va vous distinguer. Quand tu dis que la formation est fondamentale pour vous, il y a une université MEH qui s'en vient?
Je sais pas, c'est payant ça.
Ça dépend. Si c'est une université privée, tu vas être correct. Mais si c'est une université publique, t'es mieux de garder ton day job.
Ouais, non, je vais continuer à faire ce que je
fais. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag GrenierMag et mon identifiant PizzaForAll. Pour écouter d'autres PizzCasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das Pizzcast. Ou bien, venez donc faire un petit tour sur mon site web, miron.co. À la prochaine!